Et un grand merci d'écouter France Inter, il est 8h22.
France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand, le 7-9.
Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin un grand avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Il est avec son associé François Sureau, que les auditeurs d'Inter connaissent bien, un infatigable défenseur des droits de l'homme, des droits des migrants, des libertés publiques. Il est aussi amené à travailler sur les conditions de détention dans les prisons françaises. Questions et réactions 01 45 24 7000, les réseaux sociaux et l'application mobile de France Inter. Patrice Pinozzi, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être au micro. Micro d'Inter ce matin, alors que plusieurs vidéos circulent depuis quelques jours montrant par exemple le contrôle de police ayant entraîné la mort de Cédric Chouvia. Une autre vidéo montre un tir de LBD à un mètre de distance contre un manifestant dans un cortège à Paris la semaine dernière. Sur une autre encore, un policier fait un croche-pied à une femme qui marche à côté de lui. Enfin, ce week-end à Lyon, une étudiante qui filmait une manifestation depuis un balcon situé au quatrième étage de son immeuble a reçu une grenade lacrymogène. Face à ces images, on pourrait en citer d'autres. Que diriez-vous, Patrice Pinozzi, ce matin, qu'on a affaire là à des actes isolés qui relèvent de l'IGPN, de la police des polices, ou à un problème beaucoup plus fondamental de doctrine du maintien de l'ordre en France ?
Alors c'est une question extrêmement difficile, parce que c'est une question extrêmement sensible. Il faut bien comprendre, évidemment, et on en a eu la preuve à l'instant, que le maintien de l'ordre aujourd'hui en France est une chose qui est très difficile, et on ne peut pas nier qu'il y a une pression considérable qui pèse sur les forces de l'ordre. Une fois qu'on a dit cela, il faut bien comprendre que nous avons un problème aujourd'hui en France avec le maintien de l'ordre. On s'en est rendu bien compte à l'occasion de la crise des Gilets jaunes, et on en voit aujourd'hui les effets dans le cadre des manifestations contre les retraites. Nous n'arrivons pas à faire du maintien de l'ordre en France qui ne soit pas violent. Et l'usage du LBD, par exemple, que nous avons violemment convaincu avec la Ligue des droits de l'homme dans le cadre de la crise des Gilets jaunes, le démontre très clairement. Le LBD, aujourd'hui, est une arme qui est une arme dangereuse et dont l'utilisation mal maîtrisée est susceptible de causer des dégâts très importants. Nous sommes dans les derniers pays d'Europe à utiliser le LBD et on peut s'interroger de savoir pourquoi nous n'arrivons pas aujourd'hui, nous, en France, à faire du maintien de l'ordre comme les autres polices françaises, sans avoir besoin du LBD.
On va parler du LBD que vous avez combattu avec un recours au Conseil d'État où vous avez notamment perdu. On va en parler dans un instant, mais je voudrais revenir sur vos premiers mots. Le Premier ministre a condamné certains de ces événements, certaines de ces vidéos qu'il a trouvées choquantes, mais il a aussi dit les policiers qui se font insulter, cracher dessus, balancer des pavés et qui doivent rester calmes, ça compte aussi. Hier, un policier est mort à Bron. Il avait été fauché par un fourgon au cours d'une intervention. Hier, toujours, deux policiers se sont suicidés sur leur lieu de travail. La souffrance policière, est-ce qu'elle est particulière au moment que nous vivons, grève, gilets jaunes, menaces terroristes, ou vous diriez qu'elle a toujours existé ?
Moi, je pense que les policiers sont aujourd'hui sous pression depuis un temps qui est un temps très long. Il faut bien remettre en place l'ensemble du dispositif, c'est-à-dire qu'on sort de l'état d'urgence où il y a déjà eu une pression policière très forte, on a glissé sur la crise des gilets jaunes où il y a eu une mobilisation policière très forte, et maintenant on entre dans la question qui est la question des retraites. Donc oui, les policiers sont sollicités. Oui, il y a certainement et évidemment un malaise policier. Mais pour autant, cela doit être évidemment pris en considération. Mais cela ne peut pas justifier des actes qui sont certainement isolés, mais qui répondent au fond à une lassitude globale et à une sorte d'abandon des principes du maintien de l'ordre qui doit absolument prévaloir encore plus aujourd'hui, précisément parce que il y a une inquiétude de la part des manifestants.
Mais qualifiez-la, qu'est-ce qui se passe ? C'est un problème de politique de maintien de l'ordre ? C'est une dérive sécuritaire ? On assiste à quoi ? Ce serait quoi les mots que vous choisiriez ?
Bon, les mots que je choisirais, je dirais qu'il y a aujourd'hui une tendance à l'abandon de règles trop strictes et une volonté de ne pas stigmatiser trop fortement des comportements individuels. Moi, je pense qu'il y a des dérapages. On les voit, il y a des dérapages qui sont certes isolés, mais qui d'un seul coup rejaillissent sur l'ensemble des forces de police. Donc ce qu'il faut faire, c'est, un, à mon sens, évidemment, sanctionner les dérapages individuels pour que l'institution montre elle-même qu'elle ne cautionne pas ce type d'actes qui sont tout à fait inacceptables. Il faut, deux, tirer les conséquences de ce qui est en train de se passer et revoir la formation de l'ensemble des personnes qui maintiennent l'ordre. Et trois, on reparlera si vous le voulez du LBD, mais il y a quand même un sujet, c'est que quand on laisse entre les mains de policiers dont on sait qu'ils sont précisément sous pression une arme dont on sait qu'elle est susceptible de pouvoir faire des dégâts très importants, eh bien évidemment qu'il y a un risque. Il y a un risque de dérapage. Et l'idée que nous soutenions, c'est que à partir du moment où on supprimera le LBD de l'arsenal du maintien de l'ordre, eh bien par nature, de facto, eh bien on limitera le risque de dérapage avec l'utilisation de cette arme. Donc il faut penser cela à plusieurs niveaux.
Le Conseil d'État a rejeté votre recours sur les lanceurs de balles de défense. Le LBD est un élément essentiel du dispositif du maintien de l'ordre sans lequel les forces de l'ordre ne peuvent pas faire face à des situations de particulière violence. Fin de citation. Comment dire, vous ne reconnaissez pas la nature même de ce raisonnement?
Non, évidemment, puisque c'est celui que nous avons contesté devant le Conseil d'État, qui ne nous a pas donné raison, et avec la Ligue des droits de l'homme. Pourtant, nous avions mobilisé un très grand nombre d'arguments. J'ai évoqué tout à l'heure la question du droit comparé. Pourquoi sommes-nous les derniers en Europe à avoir besoin du LBD pour pouvoir maintenir l'ordre? Il faut bien comprendre d'ailleurs.
C'est une question d'armes. C'est l'arme qui est un problème pour vous, ou c'est la formation des policiers qui n'est pas suffisante?
Les deux. La formation n'est pas suffisante. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est totalement acquis. Et je pense que les policiers eux-mêmes le reconnaissent, puisque précisément, ils ne sont pas habitués à pouvoir utiliser ce type d'armes dans des conditions telles que des manifestations, de façon aussi récurrente. Et deuxièmement, l'arme elle-même est un problème. L'arme n'a pas été faite pour faire du maintien de l'ordre. L'arme n'a pas été envisagée, le LBD n'a pas été envisagé et créé pour faire du maintien de l'ordre. Ça n'est pas une arme adaptée. En tout cas, c'est ce que nous disons, c'est ce que dit le commissaire européen aux droits de l'homme, c'est ce que dit le défenseur des droits, et pour autant, nous n'avons pas réussi à entendre raison.
Christophe Castaner a déclaré que l'usage juste et proportionné de la force est ce qui sépare la démocratie de l'arbitraire, ce qui distingue l'ordre et la brutalité. Il a rappelé l'éthique nécessaire au maintien de l'ordre. Éric Morvan, directeur général de la police nationale, en partance, a cité pour ses vœux Maurice Grimaud, le préfet de police de Paris, pendant mai 68. Frapper un manifestant tombé à terre, c'est se frapper soi-même, a dit Éric Morvan. Est-ce que vous voyez tout de même, ces derniers jours, une évolution de l'exécutif et des dirigeants de la police eux-mêmes face à l'ensemble de ces événements?
Bien sûr qu'il y a une modification du discours politique, mais précisément du fait des différents incidents qui ont été portés à la connaissance de tout le monde, par les médias. D'ailleurs, on voit bien que le politique réagit évidemment aussi au médiatique, et qu'à partir du moment où il y a une polémique, à partir du moment où il y a des images, à partir du moment où le gouvernement est sommé de s'expliquer, eh bien d'un seul coup, il sent la nécessité d'une réaction. Le problème, c'est que nous sommes ici dépendants des images qui ont pu être filmées. Or, la question, elle est bien structurelle, c'est bien en amont que ce type d'incident aurait dû être évité. Et donc, on voit bien que certes, il y a une réaction politique, mais c'est une réaction politique, au fond, tardive et qui donne l'impression de n'arriver que trop tard. Il y a un moment où il faut que le politique tire les conséquences des actions qu'il mène. Ce qui est en train d'arriver aujourd'hui, on pouvait évidemment le prévoir après la crise des Gilets jaunes. Il n'y a pas de doute à cet égard, et il aurait fallu, en amont des manifestations qui interviennent aujourd'hui, changer et réformer le maintien de l'ordre en France, comme nous l'avions proposé avec la Ligue des droits de l'homme et les différentes associations syndicales qui avaient attaqué l'usage du LBD lors de la crise des Gilets jaunes.
Est-ce que vous diriez, comme François Sureau avec lequel vous travaillez, qu'il y a un recul constant et accéléré des libertés publiques en France, et qu'il devient de plus en plus difficile de manifester, ou au fond il exagère, on n'est pas à Hong Kong ou on n'est pas en Iran en France?
Alors, je vais vous dire deux choses. Trois même. Première chose, François Sureau n'exagère jamais parce que c'est quelqu'un qui a une parole vraie et forte et il est heureux qu'il puisse y avoir une parole de cette nature en France. Deuxième chose, François Sureau comme moi-même, nous sommes français et je pense que et l'un et l'autre, nous sommes extrêmement fiers d'être français. Donc évidemment, il est important de maintenir la garantie des libertés en France, mais il est heureux que nous ayons cette garantie des libertés en France. Et moi, je préfère vivre infiniment plus en France aujourd'hui que à Hong Kong ou à Pékin. Troisième chose, oui, il y a un recul des libertés en France malgré tout cela. Nous sommes en train de dilapider notre capital de liberté. Et il faut bien, à mon avis, comprendre quelque chose, c'est que on est un peu ici comme dans la même logique que celle de l'urgence climatique. Il n'y a pas de retour en arrière. Ce qu'on appelle la spirale de l'exception, ce qu'on appelle l'escalade de la répression, c'est quelque chose qui est réel et que l'on voit aujourd'hui tous les jours en France. À chaque fois que l'on rogne sur nos libertés, eh bien, il n'y a pas de retour en arrière. À chaque fois que l'on perd notre capital de liberté, nous ne le reconstituons pas au titre des différentes législations. Et aujourd'hui, il n'y a plus de parole, ou quasiment plus de parole humaniste qui vient défendre les libertés. Tout est sacrifié au profit d'une efficacité de répression qui semble partagée par tous les gouvernements, qu'ils soient de droite ou de gauche, ou ni de droite ni de gauche.
Patrice Pinozzi, on va revenir à ces questions de maintien de l'ordre et de liberté publique parce qu'il y a beaucoup de questions d'auditeurs sur ce thème au Standard. D'ici là, vous êtes l'avocat de l'Observatoire international des prisons. Que pensez-vous de la déclaration cette semaine de la ministre de la Justice qui estime que les djihadistes français ne peuvent plus, avec les changements géopolitiques sur place, être jugés en Irak? Il faut que l'État prenne ses responsabilités, rapatrie les djihadistes français et les juge ici en France. Cette position-là vous semble-t-elle responsable, légitime ou dangereuse ?
Alors, elle me semble parfaitement légitime, évidemment. Il y a un moment où les libertés fondamentales doivent quand même être précisément une boussole. On ne peut pas, d'un côté, trouver inacceptables les violences policières et s'en offusquer, et de l'autre, dire « Ah, surtout, les djihadistes français, qu'ils restent hors de France et qu'ils ne reviennent pas chez nous. » Ces personnes, quels que soient les crimes qu'ils ont commis, ou quels que soient les crimes dont on les accuse, restent des Français et il est tout à fait normal que la France puisse les juger et les récupérer pour les incarcérer le cas échéant. Vous savez, enfin, il y a un moment où on peut pas détourner toujours le regard de ce qui est sale. La France ne peut pas avoir la logique de la famille du petit Pousset et de se dire, de toutes les façons, ce Français-là, je ne l'aime pas parce qu'il est dangereux et donc je vais l'abandonner, je vais le laisser ailleurs. Non, on est obligé de s'en occuper et de laver notre propre linge sale sans prétendre essayer de s'en départir.
C'est les principes. L'opinion publique a du mal à accepter ce que vous dites là. Ça tombe, hasard des calendriers, aujourd'hui le premier djihadiste français condamné à son retour de Syrie a été libéré là, aujourd'hui, tout à l'heure, de prison.
Et ça n'est pas le dernier.
Non, ce ne sera pas le dernier, donc il est libéré, alors sous conditions, etc. Mais enfin, il est libéré. Jordan Bardella, du Rassemblement National, hier à ce micro, disait que c'était une folie de les rapatrier, les djihadistes, parce qu'ils seraient condamnés à des années dérisoires de prison, ils seraient remis dans nos rues. C'est la position du Rassemblement National. Elle est partagée à droite, mais aussi à gauche, mais aussi dans l'opinion publique, par beaucoup de gens qui estiment qu'au fond, ces Français se sont engagés contre la France, sont allés se battre contre nous et qu'on ne va pas aller les sauver. Qu'est-ce que vous répondez à ça ?
Mais c'est pas. D'abord, on n'est pas dans une question. Plusieurs choses. La première, c'est qu'on ne va pas les sauver, en fait, les Français. C'est pas comme si on allait les chercher pour les rapatrier en France. On va s'occuper.
Pour être clair, qu'ils meurent sur place. Voilà ce qu'on entend.
Oui, mais c'est pas possible de dire des choses pareilles.
Alors justement,
non, mais c'est tout. Enfin, il y a un moment où il faut réagir à ça. Il faut arrêter d'être dans une démarche qui est une démarche totalement populiste. On ne peut pas dire ces Français sont des djihadistes. Donc c'est normal qu'ils puissent mourir à l'extérieur de la France. Ces Français sont potentiellement des gens qui sont accusés de djihadisme. Aujourd'hui, on sait très bien que l'incarcération qui intervient en Irak n'est absolument plus garantie. Il ne faut pas croire d'ailleurs que le gouvernement français rapatrie les djihadistes uniquement pour des raisons morales. Il y a aussi une nécessité, c'est que si on ne le fait pas, ces djihadistes vont se retrouver dans la nature et on va les retrouver en face de nous. Donc il y a un moment où il faut être responsable de ses propres ressortissants.
Hugo Micheron
sont français, ces gens peuvent être jugés en France, être incarcérés en France, et s'ils sortent de prison, eh bien nécessairement, ils seront suivis comme n'importe quelle personne qui est incarcérée et qui sort de prison.
Hugo Micheron vient de publier, il était au micro d'Inter la semaine dernière chez Gallimard, le djihadisme français, quartier Syrie prison. Il dit que les prisons françaises, c'est l'ENA du djihad. Est-ce qu'il a raison de dire ça? Vous dites, on verra une fois qu'ils sont sortis, mais en tout cas, quand ils y sont, il dit la prison, c'est pas surveiller et punir, c'est un phalanstère où on peut se reconstruire physiquement et intellectuellement.
Alors, évidemment, ça n'est pas vrai. C'est-à-dire que la prison, on dit beaucoup que la prison française est un lieu de radicalisation. Il est vrai que certaines personnes arrivent à se radicaliser en prison, mais aujourd'hui, le gouvernement essaye de lutter contre cela en créant des unités qui sont des unités spéciales. On ne peut pas considérer que l'on ne peut pas mettre les gens en prison au motif qu'il y a un risque de radicalisation. On marche sur la tête, là. Donc ça voudrait dire que en réalité, toute personne qui serait soupçonnée de djihadisme, il n'y a plus aucune solution. On ne peut plus lui laisser l'accès à la France. On ne peut pas l'incarcérer. Non, il y a des gens qui sont susceptibles de tomber sous le coup de la loi pénale. S'ils le sont condamnés, ils iront en prison. Et en prison, eh bien, ils seront traités comme n'importe quel prisonnier. Ils feront leur peine et quand ils sortiront, ils seront suivis. Et c'est ça le principe de l'état de droit en France. C'est pas d'éradiquer des gens au motif de ce que l'on pense qu'ils sont susceptibles de faire.
On ouvre le débat avec les auditeurs et les auditrices de France Inter. Sylvie est au standard depuis Bordeaux, je crois. Bonjour madame.
Oui, bonjour, c'est depuis Bayonne.
Ah, depuis Bayonne, mille excuses. Excusez-moi, je vous laisse la parole, allez-y.
Oui, alors je suis la maman d'Antoine Boudinet qui a perdu sa main au mois de décembre 2018 par une grenade de Gli F4. Vous avez parlé des LBD, mais il y a aussi les Gli F4. Elles ont été interdites administrativement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est interdit la Gli F4 en France. Et pourtant, les forces de l'ordre, pour le maintien de l'ordre, continuent à écouler les stocks. Moi, je pense qu'effectivement, il y a peut-être un petit problème par rapport à ça. Et jusqu'où est-ce qu'on va aller en interdisant les armes et en continuant à les utiliser ?
Patrice Pinozzi vous répond. Merci pour cette question, Sylvie.
Alors, vous avez parfaitement raison de souligner qu'il y a le LBD, mais il y a aussi le Gli F4, qui est une grenade détonante, qui est utilisée officiellement pour séparer les manifestants et qui peut être extrêmement dangereuse. Et on a bien vu, lors de la crise des Gilets jaunes, comment l'utilisation de ces grenades a amené un certain nombre de blessures extrêmement graves. Vous citez l'exemple de votre fils qui a perdu une main. Effectivement, il y a eu plusieurs dizaines de blessures très invalidisantes qui sont intervenues. Donc, évidemment qu'il y a un problème dans l'utilisation de certaines armes, aussi bien le LBD que le Gli F4, et qu'il est inacceptable que le Gli F4 continue à être utilisé, alors même que...
Jusqu'à rupture des stocks, disait notre auditrice.
Jusqu'à rupture des stocks. Mais évidemment qu'il y a aujourd'hui un problème avec la nature des armes qui sont utilisées pour le maintien de l'ordre, et on en revient à ce que l'on évoquait tout à l'heure, que ce soit le Gli F4, que ce soit le LBD, à partir du moment où on laissera ces armes entre les mains des forces de police, elles seront naturellement amenées à les utiliser. Ailleurs, on peut faire sans. J'ai cité l'exemple du LBD. Si on cite l'exemple du Gli F4, je crois que nous sommes aujourd'hui en Europe le seul pays à avoir encore l'usage de ce type de grenade. Il faut absolument arrêter d'user ce type d'arme dans le cadre du maintien de l'ordre. Ce n'est pas adapté.
Retour au standard. Bonjour Michel.
Ok.
Vous êtes là Michel ?
Oui, tout à fait.
On vous écoute, vous avez la parole.
Merci bien. On voit très bien ce qu'il ne faut pas faire, mais j'aimerais bien qu'on nous dise ce qu'il faut faire quand on est devant des black blocs, des éléments extrêmement violents. Que faut-il faire alors pour maintenir l'ordre ? Et puis je voudrais tout de même rappeler qu'il y a tout de même un certain nombre de manifestations qui sont déroulées sans aucune violence d'un côté comme de l'autre.
Merci Michel. Merci. Pour cette question. Patrice Pinozzi.
Mais il faut faire ce qui est fait au quotidien, tous les jours, par un très grand nombre, pour ne pas dire la quasi-totalité, des forces de police. Évidemment, ce que l'on dénonce ici, ce sont des cas spécifiques de mauvaise utilisation politisation du maintien de l'ordre, mais dans leur grande majorité, et on en a pu avoir un très grand nombre d'exemples, les forces de police savent réagir lorsqu'elles sont bien formées, et elles le font au quotidien. Alors évidemment, c'est dur. Évidemment, c'est extraordinairement pénible d'être mis en cause, insulté, violenté potentiellement par des manifestants. Mais pour autant, le maintien de l'ordre est à ce prix. Il est exercé quasi quotidiennement, de façon irréprochable, par la très grande majorité des forces de police. Il faut que cet exemple-là soit absolument contamine la totalité des agents des forces de l'ordre et qu'il n'y ait plus d'incident isolé.
Retour au standard. Alice, avocate, est en ligne. Bonjour et bienvenue. Vous êtes
Bonjour,
là.
Bonjour, merci.
On vous écoute.
Je suis là.
On vous écoute.
Merci beaucoup. Ma question est la suivante. Tous les barreaux français sont en grève pour contester le projet de réforme des retraites et ses conséquences désastreuses à l'égard des avocats. Que pensez-vous de ce mouvement de grève sans précédent ? Merci beaucoup.
Merci à vous. Patrice Pinozzi vous répond.
Alors, il m'est un peu difficile de répondre à cette question parce que, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, pour ma part, je suis avocat au Conseil d'État à la Cour de cassation, donc je n'interviens pas exactement sur les mêmes domaines que mes confrères avocats à la Cour. Donc, à cet égard, je n'ai pas véritablement d'autorité, ou en tout cas, je ne suis pas véritablement légitime pour porter la parole des avocats. Une fois que j'ai dit ça, il est certain que il y a aujourd'hui une revendication extrêmement forte de la part de l'ensemble de la profession s'agissant de ces questions. Ces revendications sont tout à fait légitimes et on ne peut qu'espérer que le gouvernement potentiellement puisse les entendre. Pour ma part, en tout état de cause, je pense que il faut nécessairement réformer les retraites. Il faut que cette réforme des retraites puisse être faite avec un maximum de prise en considération des spécificités de chacune des professions. Les avocats ont évidemment une spécificité, ils font entendre leurs droits et on peut espérer que cette spécificité soit prise en considération par le gouvernement.
Autre question sur au défenseur des libertés publiques que vous êtes, l'affaire Matzneff. L'affaire Gabriel Matzneff remet en lumière la question du consentement. C'est d'ailleurs le titre du livre de Vanessa Springora publié chez Grasset. Le gouvernement avait voulu, quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, établir l'âge du consentement à 15 ans, ou plus précisément l'âge minimal en dessous duquel l'absence de consentement serait automatiquement présumée. Le gouvernement a finalement abandonné l'idée. Est-ce que c'était une erreur ? Est-ce qu'il faut un âge du consentement à 15 ans ?
Alors, je pense qu'il faut faire un peu de pédagogie sur ce sujet. Il faut bien comprendre que dans notre droit et depuis très longtemps, il y a d'ores et déjà une incrimination qui s'appelle l'atteinte sexuelle, qui est caractérisée à partir du moment où il y a des actes sexuels qui sont réalisés par un adulte à l'égard d'un mineur de moins de 15 ans. Donc, il existe d'ores et déjà dans notre droit une disposition qui interdit toute atteinte sexuelle à un mineur.
Donc on n'a pas besoin de rajouter le consentement.
Alors,
à 15 ans
quel a été l'objet de la polémique ? L'objet de la polémique, c'est que il y a effectivement un délit particulier qui est l'atteinte sexuelle, qui est susceptible d'être condamné jusqu'à 7 ans d'emprisonnement. Sauf que lorsque il y a pénétration, comme c'était le cas, il n'y a pas forcément de possibilité de poursuivre la personne pour le crime de viol, qui lui est poursuivi jusqu'à 20 ans. Donc, je pense qu'il ne faut pas se tromper de débat. Il y a d'ores et déjà une infraction. Si l'on veut modifier cette infraction et potentiellement augmenter la sanction possible pour l'atteinte sexuelle, libre au gouvernement, mais on ne peut pas tout dénaturer et effectivement, on ne peut pas considérer, à mon sens, que au seul motif qu'il y a eu pénétration, eh bien nécessairement, il y aurait viol, puisque dans ce cas-là, il y aurait un risque d'une atteinte disproportionnée à la présomption d'innocence. En tout cas, c'est la raison pour laquelle le gouvernement a abandonné cette idée de peur d'une censure du Conseil constitutionnel.
Le parquet de Paris a ouvert contre Gabriel Matzneff une enquête préliminaire pour viol commis sur mineur de moins de 15 ans. Il a fallu la publication d'un livre pour que la justice se saisisse de l'affaire, alors que Gabriel Matzneff racontait tout en détail dans ses journaux depuis 30 ans. Est-ce qu'il y a eu complaisance ou défaillance de la justice ?
Je pense qu'il y a eu les deux, en fait, en réalité. C'est-à-dire que, au fond, la justice n'a pas agi parce que il ne lui a pas semblé que le comportement de Gabriel Mazneff crée un trouble à l'ordre public. Et il a fallu, évidemment, qu'il y ait l'écho qui ait été donné au livre de...
Vanessa Springora.
Exactement. Pour que, d'un seul coup, il y ait une prise de conscience collective. Et je pense que cette prise de conscience, elle est intervenue à l'égard de l'ensemble des citoyens. Et elle a nécessité une réaction de la part de l'autorité judiciaire. Et d'un seul coup, il y a eu un besoin de poursuite qui s'est exprimé. Le parquet réagit à l'opinion publique. C'est assez normal. Et je pense que il n'y aurait pas eu l'engagement de poursuite, qu'on aurait eu l'impression d'une défaillance encore plus forte de la part de l'autorité de poursuite.
Patrice Pinozzi, Gallimard a décidé de ne plus commercialiser le journal de l'écrivain, de Gabriel Mazneff. Est-ce une bonne décision, selon vous, une entrave à... une liberté qui est aussi la liberté de création?
Je pense que c'est effectivement la liberté de la maison Gallimard. Ils sont libres d'éditer qui il leur semble bon d'éditer. Il faut quand même noter quelque chose de particulier, c'est que on est ici face à un journal. On n'est pas forcément face à une œuvre de fiction. Mmh. On est face à une œuvre qui relate une réalité, ou en tout cas une prétendue réalité, et là encore une fois on a l'impression que il aurait pu se rendre compte de tout cela bien plus tôt, mais en réalité la maison Gallimard réagit comme le procureur de la République à une polémique médiatique, et aujourd'hui la maison Gallimard ne veut plus donner écho au récit de Gabriel Mazneff. En réalité, c'est son choix, et je ne pense pas que cela soit ni critiquable, ni qu'il faille y voir une atteinte à la liberté d'expression.
Patrice Pinozzi, merci d'avoir été au micro de France Inter. Je rappelle que vous êtes avocat, Conseil d'État, Cour de cassation, c'est ce que vous nous rappeliez tout à l'heure. Merci d'avoir été avec nous ce matin. On est très en retard, il est 8h48.